J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui rougit. Il suffit qu'un prof l'interroge, qu'une camarade de classe s'adresse à lui et c'est parti. C'est l'incendie qui prend tout de suite, c'est le rouge au front et la bouffée de chaleur, c'est l'enfer de nouveau, avant même le coup de grâce. Oh, tu rougis ! Oh, il est tout rouge ! Et évidemment, ça n'arrange rien, c'est même exactement le contraire. Il est maintenant tout à fait dans les flammes de l'enfer, l'afflux de sang se fait plus intense encore, il voudrait se cacher, disparaître, il voudrait n'être jamais venu au monde, n'avoir plus jamais à affronter les yeux des autres comme des poignards, cet enfer des yeux des autres quand il se pose sur lui. Il ne sait pas encore que cette peur de rougir s'appelle l'érotophobie. Il ne sait pas encore que la maladie dont il souffre, car c'est bien une maladie, relève de l'anxiété sociale. Il sait encore moins que dans quelques années, alors qu'il sera devenu cadre dans une entreprise, cette peur de rougir et cette incapacité à prendre la parole en public seront devenus de simples mauvais souvenirs. Il a aujourd'hui 35 ans, et une des choses qu'il préfère dans son boulot, ce sont les présentations orales. Il a même souvent l'impression, en prenant la parole, de prendre son envol, de prendre sa vie en main, et c'est souvent lui qui coache les jeunes recrues pour leur prise de parole en public. Il est resté pourtant plutôt timide, mais en contenant sa timidité dans certaines limites, il s'est libéré de son anxiété sociale. Mais qu'est-ce qui a changé ? Comment s'est-il libéré du rouge sur son front ? La route fut-elle longue ? Sa libération fut-elle progressive ? Ou connut-elle un déclic ponctuel ? Comment sa peur panique du regard des autres s'est-elle muée en joie de se lancer, de partir à la rencontre des autres et du monde ? Pour en parler ce matin, je suis très heureux de recevoir un spécialiste de l'anxiété sociale, médecin, prof de médecine à la fac, psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil, auteur notamment de « Retrouver l'espoir » sorti en 2016 aux éditions Odile Jacob, de « La nouvelle peur des autres » avec Christophe André et Patrick Légeron, et plus anciennement avec Stéphane Roy, de « Ne plus rougir et accepter le regard des autres ». Antoine Pellissolo est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons nous demander comment on fait pour se libérer de l'anxiété sociale, comment on fait pour sortir enfin de l'enfer brûlant du regard des autres.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Antoine Pellissolo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On sait que c'est pas facile de venir ici. Vous dirigez le service psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous écrivez des livres. Vous êtes aussi engagé en politique. On en parlera. Donc merci d'être là. Je vais commencer tout de suite par entrer dans le vif du sujet. Ce jeune homme que j'ai évoqué là, bon, il s'en est sorti. Comment il a fait ?
Oui, bah ça me rappelle plein de belles histoires, parce qu'en effet, ça commence mal, votre histoire, mais elle se termine bien, et c'est vraiment un plaisir, d'ailleurs, dans notre travail, de parvenir à ça. Ouais. Bah, c'est un chemin, souvent d'accompagnement, bah, dans ce cas-là, peut-être par une thérapie, qui est parfois ouais. nécessaire, que certaines personnes arrivent à faire d'elles-mêmes. Enfin, on peut ouais, espérer ouais. que, pour certaines personnes, avec quelques aides, par exemple les bouquins dont qu'on essaie de proposer comme des méthodes, en fait, de ouais. compréhension, c'est, en gros, retrouver le plaisir de la communication, mmh. et probablement cette personne-là, en effet, a ce plaisir-là, sûrement même avant d'avoir cette peur. D'autres personnes sont envahies, et c'est plus compliqué, parce que tous les rapports sont compliqués. Là, c'est visiblement vraiment focalisé sur l'histoire du rougissement, donc ouais, c'est ouais. plus facile de s'en débarrasser.
D'accord.
Et on finit par accepter le regard de l'autre, c'est quand même ça le point final important.
Alors, je vous propose une émission en deux temps. Un premier temps, on essaye de comprendre ce que c'est que l'anxiété sociale, de la définir avec ses différentes modalités, et une deuxième partie plus dirigée vers la thérapie. Et j'annonce à nos auditeurs et auditrices qu'on va aussi faire un point précis sur la prise de parole en public, parce que c'est un sujet qui d'abord me passionne, et ensuite je sais que les Français ont un vrai problème avec ça, plus que d'autres nations, c'est dur à comprendre, on se penchera là-dessus après. Mais d'abord, essayons de définir l'anxiété sociale.
Alors c'est un spectre assez large de toutes les peurs ou les inquiétudes en lien avec, en gros, la relation à l'autre. On pourrait appeler ça l'anxiété relationnelle. Ouais. Et il y a tout un spectre donc de formes légères, de niveau bas, timidité simple, trac, qu'on a tous connu ouais. sûrement à un moment donné. Et ça va au maximum vers la phobie sociale. On dit dans nos jargons anxiété sociale pathologique ou trouble anxieux social. En tout cas, la phobie sociale qui peut être plus ou moins invalidante, mais qui est quand même très gênante, ouais. puisqu'on parle d'une pathologie. Et c'est vraiment la peur du regard de l'autre dans ces situations, et derrière la peur du jugement négatif de l'autre.
Mais alors, à partir de quand est-ce que c'est pathologique ? Est-ce que c'est un franchissement de seuil ? ou est-ce que c'est une différence de nature ? On est tous timides, on a tous légitimement du stress à des moments où c'est normal d'être stressé. Et qu'est-ce qui fait que c'est pathologique au fond ?
Alors c'est tout à fait la bonne question, c'est à la fois quantitatif que qualitatif, si on peut dire. Quantitatif, c'est clair que si vous êtes juste un peu dérangé avant une prise de parole en public ou avant une rencontre, mais que finalement vous arrivez à mettre ça de côté et vous avez une vie normale, finalement, ce n'est pas une gêne et c'est plus ou moins persistant dans votre personnalité parce qu'il y a des natures plus ou moins timides, mais en tout cas, ce n'est pas un handicap. La pathologie, c'est quand vous perdez en gros votre liberté d'action. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, ou en tout cas que vous faites avec beaucoup de pénibilité, d'angoisse, et ça peut être quasiment toute la journée, parce que c'est à la fois les gens qu'on croise dans la rue, ou avec qui on pourrait échanger, c'est au travail, c'est dans la vie personnelle. Donc l'anxiété sociale, c'est vraiment quelque chose qui peut être présent en permanence, et quand c'est à la fois donc, très intense, très invalidant, et avec la petite différence donc, de nature, je vous disais, c'est qu'il y a un mécanisme particulier, quand on a une phobie sociale qui est pathologique, c'est souvent on passe plus de temps à s'observer soi-même, c'est-à-dire à se surveiller, quelle réaction on a. Alors, par exemple, vous parliez des rougissements, on pourrait y revenir, mais ça peut être d'autres choses sur lesquelles on veut à tout prix se contrôler, parce qu'on a une hyper-conscience de soi, c'est ça que le fond du mécanisme, plutôt que d'être dans la relation. Et les timides, bon, sont un peu gênés au départ, mais arrivent à faire leurs prestations, par exemple, sur scène, ou à discuter, parce qu'ils font attention à l'autre, c'est alors ça, que le phobique, a priori, est centré sur lui-même et perd cette capacité à comprendre l'autre et donc à progresser dans la relation.
Mais est-ce qu'il y a une anxiété non sociale ? Parce qu'au fond, si on est des animaux sociaux, on vit sous le joug du regard des autres depuis le début. Souvenez-vous du stade du miroir, ça veut dire que, pour la faire courte, au bout de la première seconde de conscience de soi, le petit bébé humain s'adresse déjà au regard de l'autre pour savoir si c'est bien lui, cette image dans le miroir. Est-ce qu'il y aurait une anxiété qui serait non sociale ?
Alors en tout cas, il y a des peurs qui sont plus liées à la mort. Alors on peut dire que la mort c'est quand même le vide et donc l'absence de l'autre. Hein. Bon, on peut aller jusque-là. C'est souvent la peur de la douleur dans certaines phobies. Alors on peut toujours faire le lien avec cette peur de la mort et du vide. Mais oui, je pense qu'en effet, la plupart des peurs sont de nature sociale, directement ou indirectement. Et quand vous parliez du miroir, c'est vrai que c'est une notion assez fascinante d'ailleurs dans le mécanisme de la phobie sociale, parce qu'il y a le stade du miroir qui est un peu un concept psychanalytique, mais il y a aussi ce jeu de miroir dans l'interaction avec l'autre, parce que on se voit dans le regard de l'autre. Et c'est là que, probablement, la peur sociale, c'est aussi la peur de soi-même.
Quand vous dites que c'est un concept psychanalytique, je me souviens que vous aviez collaboré à échelle juste d'un chapitre au livre noir de la psychanalyse. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation ?
Parfois, des débats que nous avons dans notre profession, c'est sur l'utilisation de la psychanalyse, notamment dans les soins. Et effectivement, ça reste d'ailleurs d'actualité. Par contre, les concepts et la théorisation, il y a beaucoup de pans de la psychanalyse qui ont un sens psychopathologique même. Mais c'est pas la même chose que de dire on va s'en servir dans les soins. Et par exemple, dans l'anxiété sociale, clairement, on pourrait y revenir, mais c'est pas ça qui fonctionne.
Même les aspects sociaux sont évidemment représentés dans notre cerveau. Il n'y a pas d'opposition entre le cerveau et la société. Notre cerveau comprend des régions qu'on appelle le cerveau social et qui permettent de représenter les autres. Et c'est intéressant, ce sont les mêmes régions du cerveau qui servent à représenter les autres et à se représenter soi-même. Voyez ? Donc l'image de soi est aussi en partie l'image de soi par rapport aux autres.
Donc c'était Stanislas Dehaene, que vous connaissez j'imagine, qui nous explique au fond que l'image de soi et l'image de l'autre sont entremêlées, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle le cerveau social, c'est tout à fait ça, c'est à la fois moi et les autres, et moi dans le regard de l'autre. Donc c'est là qu'il y a ce jeu de miroir un peu sans fin, parce que quand on regarde l'autre, on se voit soi-même, on voit l'autre qui vous voit, on voit l'autre qui vous voit vous voir, enfin il y a tout un jeu comme ça, et en effet les structures, alors pas toutes, hein, certaines structures sont vraiment liées à l'appropriation de soi, puis l'autre, hein, et d'autres choses qui sont dans l'altérité. Mais il y a aussi, moi je trouve vraiment l'élément intéressant, c'est le centre de la peur, l'amygdale, qui est le centre à la fois de la peur du déclenchement de la réaction de peur et du repérage du danger, mais aussi de l'aspect relationnel très immédiat. C'est-à-dire que c'est dans l'amygdale qu'on, par exemple, qu'on sent le regard de l'autre, qu'on sait si l'autre vous regarde ou pas.
Ouais.
Et c'est une fonction assez fascinante. On peut savoir que quelqu'un vous regarde quand on est à 100 mètres de lui, alors que finalement, c'est minuscule. Et puis aussi, qui mesure la distance à l'autre. Enfin, il y a une concentration de phénomènes comme ça, sociaux et d'anxiété, dans ce cerveau un peu archaïque, parce que c'est une partie très ancienne de notre cerveau.
Donc, grâce à cet extrait du neuroscientifique Stanislas Dehaene, on comprend aussi la question du seuil et la question de la pathologie que vous avez si bien posée, parce qu'au fond, c'est normal de se sentir observé. Visiblement, ça vient sûrement de l'évolution de l'espèce. Ce que vous avez l'air de dire par rapport à l'étude du cerveau, c'est que c'est normal de sentir quand l'autre me voit, mais ça devient pathologique quand je suis peut-être dans une anticipation excessive de ce qu'il pourrait penser, c'est ça ?
Oui, oui, parce que ce qui est normal, c'est de rentrer en relation et de même, on dit, en synchronie parfois, d'être en empathie, par exemple, avec l'autre. Et puis, alors, ce qui s'est rajouté probablement avec l'évolution, comme toutes les peurs, c'est en fait d'avoir une vigilance à quelque chose qui pourrait être dangereux pour soi-même.
Ouais.
Et il y a deux phénomènes un peu fondamentaux de danger dans ces cas-là, c'est que l'autre soit un prédateur, éventuellement, soit agressif. Et ça, c'est pas forcément entre congénères, mais ça peut être avec d'autres prédateurs. Et on sait très bien que le regard fixe, et le propre notamment du visage humain, c'est d'avoir les yeux rapprochés, et c'est les yeux des prédateurs. C'est-à-dire,
ah oui,
quand vous mangez des animaux, vous êtes carnivore, vous avez besoin d'attaquer des proies, et le fait de cibler, par exemple, un autre individu, c'est un signe d'agressivité très fort. Et c'est pour ça que, par exemple, on baisse le regard quand on se sent moins dominant que dominé. Il y a d'autres animaux qui ont le regard sur les côtés, vous savez, qui sont plutôt des proies, et donc qui sont plutôt en surveillance de leur environnement. Et donc, premier point, ce qu'on ressent éventuellement dans le regard de l'autre, c'est cette prédation, éventuellement agressivité, alors qui est souvent symbolique, hein, parce que dans nos rapports sociaux, on n'en est pas là. Mais quand même, il y a des phobiques qui ont peur, de l'agressivité de l'autre.
Ouais.
Et puis, la deuxième peur fondamentale, c'est la peur de ne pas être apprécié par l'autre, aimé, et donc de perdre le lien social, d'être rejeté. Et très souvent, l'émotion qui va avec la peur sociale, c'est la honte, parce que on serait plutôt dans une situation de mort sociale, en fait. C'est notre façon de perdre son identité, c'est de ne pas être reconnu, de ne pas être affilié, comme on dit, de ne pas être dans un groupe, parce que l'être humain ne peut pas survivre tout seul. Donc c'est une des conditions de l'attachement. Et il y a sûrement ces phénomènes très archaïques, très anciens, puisqu'ils ne sont plus forcément actifs dans une relation banale de tous les jours, mais ils ressurgissent dans cette peur du jugement négatif. On dit dans nos définitions, c'est la peur de l'humiliation dans certains cas.
Mais alors c'est très intéressant parce que la peur de la honte et de l'humiliation, c'est quelque part plus civilisé que la chose très primaire que vous évoquiez au début, qui est la peur du prédateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'on a conservé de l'évolution quelque chose qui est inadapté à notre vie moderne, puisqu'il y a beaucoup moins de prédateurs, et que peut-être il faudrait comprendre mieux notre cerveau, et qu'on a hérité d'une logique d'effroi par rapport à des prédateurs qui au fond n'existent plus?
Voilà, alors il y a les deux qui se mélangent. Malgré tout, moi je vois beaucoup de personnes, hein, quand la psychopathologie, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir des cas particuliers, des extrêmes, qui ont gardé malgré tout cette peur-là en lien avec des traumatismes en général, c'est-à-dire de s'être senti quand même souvent maltraité ou réellement maltraité par exemple par les parents, parce que malheureusement ça peut arriver. Donc ce réflexe-là, il reste actif par une espèce de séquelle traumatique de peur réelle. Mais c'est sûr que le plus souvent, ce qu'on voit par exemple chez les rougisseurs, vous parliez tout à l'heure d'une personne érotophobe, c'est vraiment cette peur plus sociale et complexe. La honte, c'est une émotion plus complexe que la peur, effectivement, qui est plus importante dans notre société, parce que là, encore aujourd'hui, et de plus en plus, même chez les adolescents, par exemple, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas être aimable, et donc de faire partie du groupe, évidemment plus puissante que la peur du danger réel.
Oui, alors je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pas que ce soit mal compris, il y a évidemment des vrais prédateurs. Encore aujourd'hui, il y a évidemment des vrais agresseurs, bien sûr. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans l'anxiété sociale, on a peut-être hérité d'un schéma cérébral archaïque qui est quand même en décalage avec la vie moderne dans sa dimension plus sécuritaire.
Absolument, mais ça, c'est le cas de toutes nos formes d'anxiété, notamment quand elles dérivent jusqu'à un niveau pathologique, c'est qu'il y a un décalage, en effet. Notre cerveau n'a pas été construit pour, par exemple, interagir avec des milliers de personnes, alors que nos moyens de communication nous le permettent, et même sans aller jusqu'à des des milliers, c'est aussi nos sociétés modernes, enfin civilisées, nous mettent en interaction avec plein de mondes différents, alors que les hommes des cavernes, les homo sapiens du début, avaient leur tribu et la vie sociale n'était pas du tout la même. Ouais. Donc il y a un énorme décalage, et ce qui provoque ce choc un petit peu de l'évolution, comme pour d'autres formes d'anxiété, le décalage entre notre équipement de base cérébral qui est celui de l'homo sapiens et l'environnement de vie actuel.
Alors c'est passionnant, on va en parler tout à l'heure dans la dimension thérapie, de peut-être régler ce décalage. Mais juste sur le constat et sur la définition, on a compris qu'il y avait un problème d'anticipation. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de prophétie autoréalisatrice, particulièrement dans l'anxiété sociale ?
Absolument. Ça, c'est... D'ailleurs, on l'explique aux personnes pour qu'elles en aient bien conscience, même si c'est évidemment, ça rajoute une couche de difficulté. Mais si vous êtes convaincu de ne pas être bon, de ne pas être performant dans une relation, dans une compétence sociale, très souvent, vous allez vous mettre vous-même en retrait, ne pas évidemment communiquer ou vous protéger au maximum, ne pas être dans la relation, c'est-à-dire ne pas faire attention à l'autre, et vous allez perdre en effet en qualité. Ça ne veut pas dire que vous allez être catastrophique, parce qu'il y a un énorme décalage. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi, qu'on essaye de rétablir entre une croyance de base et même une auto-observation qui est toujours très amplifiée négativement par la peur. Vous avez l'impression d'avoir fait une prestation ridicule, que tout le monde s'est moqué de vous, alors qu'en fait, quand on regarde les choses en vrai, et souvent on le fait ensuite avec une caméra pour montrer que c'était pas à ce point-là, y a un énorme décalage. Mais réellement, c'est vrai que vous pouvez être moins actif dans la communication et donc, finalement, aggraver votre sentiment d'incompétence. Et ça, c'est un des cercles vicieux de l'anxiété sociale, à la différence, je vous disais, de la timidité, où souvent, avec la timidité, on fait quand même les choses, et finalement, on surmonte cette timidité, comme on dit, après, avec de l'expérience.
On va écouter un très joli morceau de Pomme, parce que justement, il est question, dans ce morceau, je crois, d'une des manifestations particulièrement cruelles de l'anxiété sociale. C'était Pomme, tellement beau, je sais pas danser.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Antoine Pellissolo et c'est passionnant. Merci beaucoup, docteur, d'être venu parmi nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil, que vous avez écrit beaucoup de livres sur l'anxiété sociale. Et justement, comment vous réagissez à ce que chantait Pomme dans cette chanson ? Je sais pas danser, je ne sais pas m'oublier.
Ah oui, alors c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en évidence dans la peur sociale, c'est le fait d'être hyper conscient de soi-même et de se voir un peu comme un objet social dans le regard de l'autre. On n'est plus une personne avec ses intentions, ses goûts, on est notamment tous les défauts que risque de voir l'autre et la danse, bon, clairement pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise, ont l'impression que leur corps est plutôt aussi là en défaillant. Et derrière chaque peur sociale, il y a la peur d'une défaillance particulière, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas avoir de culture, ne pas avoir le savoir-faire et d'être considéré comme quelqu'un de faible, et notamment à cause des émotions, avec un effet d'enchaînement là qui est j'ai peur de mes émotions, donc je suis encore plus mal. Mais juste l'expression physique, en effet, alors la danse c'est une expression qui peut être complexe, mais le fait juste d'être regardé pour certaines personnes sans rien avoir à faire de particulier peut être aussi très angoissant.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai vu une étude qui racontait qu'il y avait plein de gens qui s'interdisaient des carrières, des métiers, des études, pour ne pas prendre la parole en public, pour ne pas avoir à assumer ce regard des autres, cet enfer qui s'auto-censure, au fond, dans leurs ambitions professionnelles.
Oui, parce que malheureusement, ce trouble, il apparaît souvent soit dans la petite enfance, très jeune, soit à l'adolescence, donc à la période où on se lance dans les études, notamment. Et donc, souvent, le problème, c'est passer un oral, donc un oral en cours, à l'école ou à la fac. Et ensuite, en effet, toutes les réunions, toutes les situations d'exposition, comme on dit, qui peuvent être des freins, mais en effet, majeurs. Et là, ça se mesure, hein, dans les épidémiologies, on voit que le niveau de fonctionnement social, professionnel, est inférieur à ce que la personne aurait voulu faire.
Bon, on va essayer maintenant, tout le monde attend ça, je crois, de voir la question de la thérapie. Comment on fait pour s'en sortir? Mais avant ça, écoutons bien sûr Jean-Paul Sartre, qui a vu avant tout le monde, et de façon très particulière et très sensible, ce problème, parce que lui-même en a évidemment souffert lorsqu'il était tout petit.
J'ai voulu dire, l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous.
Alors, Antoine Pellissolo, je vous ai vu réagir, c'est très émouvant, vous avez tremblé, vous avez haussé les sourcils, ça a beaucoup touché, cette phrase de ça.
Oui, parce que je ne l'avais pas entendue, mais évidemment, pour nous, l'enfer, c'est les autres, c'est la clé dans plein de choses sur le sujet. Il décrit vraiment très bien ce qu'on appelle l'estime de soi, en fait, oui. C'est un autre concept qui est très proche aussi de l'anxiété sociale, une faible estime de soi, et notamment une estime de soi qui est trop dépendante du regard de l'autre, qui serait dépendante que du regard de l'autre. Et dans ce cas-là, c'est ça la vulnérabilité majeure, c'est d'accorder une valeur à soi-même que par, au travers, en tout cas, du jugement de l'autre.
Ce qui est d'autant plus touchant dans le témoignage de Sartre, au-delà de son génie, c'est qu'il avait un physique très très particulier, objectivement, et que ce physique lui a bien sûr attiré des regards très spécifiques qui se sont posés sur lui, comme des poignards, comme dans la chanson de Marc Lavoine, les yeux revolvers. Et c'est pas rien. Et d'ailleurs, dans toute l'œuvre de Sartre, il y a des yeux partout. Soit c'est les yeux des autres, soit c'est les yeux des dieux, soit c'est l'œil de la conscience morale. C'est comme si on pouvait pas, au fond, échapper à ce regard. Mais en même temps, je crois qu'il y a chez Sartre un peu de la solution. Lorsque Sartre nous dit, en fait, tu dois faire avec le regard des autres sans en faire un dieu, en prenant simplement dans ce regard de l'autre une indication intéressante à intégrer à d'autres indications que la vie va te donner.
Eh bien, parfait. Je crois que vous êtes bien parti pour les thérapies, parce que c'est exactement ce qu'on essaye, effectivement, d'expliquer, ou en tout cas, bon, de faire accoucher, on va dire, auprès des patients, parce que c'est au travers d'un raisonnement, on dit socratique, hein, c'est, désolé pour...
On est sous le soleil l'emprunt. De Platon.
Voilà. C'est que cette idée-là doit surgir dans l'esprit de tout un chacun pour arriver à, non pas à oublier ni le regard de l'autre, ou nier le regard de l'autre, mais de le mettre à sa place, en disant, je sais que on est en interaction, je sais que c'est important d'avoir de bonnes relations, voire d'être aimé, parce qu'il y a quand même à nouveau cette question-là. Mais je n'ai pas me baser que là-dessus pour me donner une valeur. Et surtout, ce qu'on transmet, c'est vous ne saurez jamais ce que pense réellement l'autre de vous.
Oui.
Au lieu de vouloir en permanence l'anticiper, le deviner, le devancer même, une forme de passivité souvent qu'ont les anxieux, vous ne saurez jamais. Donc c'est une illusion que de penser que vous allez avoir tout de suite l'approbation ou l'amour de l'autre. Il faut faire avec cette incertitude, et l'anxiété est souvent majorée par l'incertitude, mais en tout cas se baser sur beaucoup plus une observation, on va dire, objective de réaction de l'autre, plutôt que d'aller fouiller sa pensée profonde. Parce que même, on leur dit, si vous voulez savoir ce qu'on pense vraiment de vous, il faut le demander. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait jamais quand on est anxieux. Et même quand on demande, très vite, la réponse, c'est dire, oui, mais il sera gentil avec moi, il va dire que je suis très
hypocrite, de mauvaise foi, menteur.
Pas hypocrite, mais parce que ça peut être par gentillesse aussi, de dire, je ne dis pas le fond de ma pensée. Et peu importe, à la limite, ce qui compte, c'est les actes. Et c'est là que la thérapie, on va voir, c'est beaucoup des actes avant tout.
Et d'ailleurs, vous avez employé le mot d'incertitude. Est-ce qu'il n'y a pas là un levier décisif qui est de dire au patient, l'incertitude, il faut l'accepter. Donc en fait, vous voudriez vous rassurer en pensant qu'il n'y a pas d'incertitude, mais peut-être qu'il vaudrait mieux l'accepter et que ça ira mieux.
Absolument. Donc ça, c'est la recette pour toutes les formes d'anxiété. Il y a des psychologues plutôt canadiens qui ont développé le concept d'allergie à l'incertitude dans l'anxiété. Ouais. C'est comme si on ne supportait pas qu'il y ait des choses incertaines qu'on ne puisse pas contrôler, donc anticiper et contrôler à l'avance. Ce qui est par définition impossible, puisque c'est de l'avenir. Donc en effet, tout le travail, c'est d'accepter l'incertitude avec ses aléas. Alors on s'y prépare, par exemple, on se prépare au pire. On va dire, on va faire, par exemple, pour l'anxiété sociale, le scénario où c'est la catastrophe, on se moque de vous, on vous jette des tomates, parce que ça n'arrive jamais, mais pourquoi pas si c'est dans... Et on va finir par se dire, au pire, je l'ai déjà vécu, c'est peu probable, parce qu'il faut aussi relativiser les choses, mais on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, on arrive à être plus disponible pour l'instant présent.
Ça veut dire que, si je comprends bien, ce que vous faites comme thérapeute, c'est pas être dans une logique de rassurer, parce que paradoxalement, ça inquiéterait, parce que la personne, elle se dit, il me rassure, mais je peux me prendre des tomates, et je peux être humilié.
Absolument.
Et plutôt de dire, oui, ça peut arriver, mais vis quand même.
Absolument. Alors, évidemment, on fait un petit peu d'analyse. On va dire, la probabilité de recevoir des tomates est quand même faible, ce qui peut m'inciter à y aller. En gros, il y a 90% des gens qui seront bienveillants ou en tout cas neutres vis-à-vis de vous. C'est à peu près ce qu'on trouve. D'ailleurs, on fait des tests avec eux. On va interroger des gens dans la rue quand on fait des groupes, par exemple, de thérapie. On fait des espèces de micro-trottoirs. Qu'est-ce que vous pensez des gens timides? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui rougissent? Qu'est-ce que vous vous diriez si vous voyez quelqu'un? La plupart des gens sont plutôt bienveillants. C'est plutôt la bonne nouvelle. Et il y aura toujours 10% de méchants, de gens malveillants. Eh bien, on va faire avec, ou on va faire le moins possible avec eux, on va s'occuper des autres. Mais la réalité est là. C'est vrai qu'on ne va pas se raconter des histoires en disant « Vous êtes quelqu'un qui sera de toute façon aimé par tout le monde. » On ne peut pas plaire à tout le monde, mais peu importe. On est dans l'instant présent et surtout dans ce qu'on peut tirer de bénéfique et de plaisant dans la vie sociale en général.
Donc ça veut dire que concrètement, parce qu'il y a beaucoup de parents qui doivent penser à ça, vous avez une petite fille qui vient d'entrer en 6e, elle a 11 ans, elle connaît personne et elle est invitée à un anniversaire, elle a hyper peur d'y aller, elle préfère rester toute seule à la maison, et elle vous dit, mais ça se trouve, on va pas me parler, je vais rougir, je vais être humilié. Et nous, les parents, on est souvent tentés de dire, mais si, ça va bien se passer, ça va être super, tu vas te faire des amis. Mais si je vous écoute, c'est un très mauvais conseil. Il vaudrait mieux le dire, ma petite fille, t'as raison. Ça peut très bien mal se passer. C'est vrai, tu peux vivre l'enfer, mais c'est pas sûr.
Oui, alors ça, c'est quand on a déjà un petit peu avancé dans la thérapie. Je crois que pour les petits, c'est un peu violent, évidemment, le présenter comme ça, mais c'est un raccourci.
Alors, vous diriez quoi?
Non, l'idée, c'est, regarde, tu l'as déjà fait avec telle ou telle personne, ça s'est bien passé. Effectivement, il y a des gens moins sympas, mais il n'y en a pas beaucoup hein, dans ce que tu vas voir. Et c'est intéressant, tu vas passer du bon temps. Évidemment, il faut être plutôt positif et bienveillant, mais surtout, ne pas fuir. Bon, vraiment, la recette principale...
C'est l'exposition.
C'est l'exposition, donc ne pas renoncer. Et ça peut être des petits pas aussi. On peut dire, tu vas alors, d'abord aller passer un petit moment chez ta copine où il n'y aura pas trop de monde, et puis on va y aller par progressivité, comme ça. Parce que le pire, c'est de se jeter à l'eau quand on a l'impression qu'on a papier et qu'on va couler. Donc ça, personne ne le fera. Donc c'est plutôt de la progression. Et chez les enfants, c'est vraiment ça. C'est les accompagner, leur montrer l'exemple, rassurer sur ce qu'on peut rassurer, parce que oui. Il y a quand même des sujets sur lesquels les fantasmes sont excessifs, mais en effet, sans se raconter de fausses histoires.
Alors, on comprend votre thérapie de l'exposition progressive, step by step, et puis on monte en degrés. Mais est-ce que ça veut dire que, dans la thérapie, il n'y a pas quelque chose de plus analytique sur le fond, la source, l'origine même de ce problème d'estime de soi ou d'anxiété sociale ?
Oui, alors comme toujours, hein, on parle de thérapie comportementale et cognitive, donc il y a une partie cognitive qui est, en gros, qui sont les croyances qui sous-tendent, ou en tout cas qui sont amplifiées, comme on l'a vu dans ce cas-là, il y a un cercle vicieux. Donc la croyance, c'est « je ne suis pas compétent, je ne suis pas aimable, je vais forcément être mauvais ». Et alors ça, vous pouvez me dire, c'est encore un peu superficiel, oui, peut-être que c'est des schémas un peu superficiels, il y a peut-être d'autres choses derrière. Alors là, c'est là qu'on rentre dans d'autres explications possibles, ouais. Mais moi, il me semble que déjà la peur très ancienne, on l'a dit, très archaïque de me retrouver seul, d'être seul au monde, ça suffit déjà à expliquer pas mal de choses, sans aller plus loin dans quels ont été les rapports avec mes figures parentales, l'attachement précoce, qui joue un rôle, forcément, ouais. Mais qui est mêlé à tout cette symbolique de l'isolement potentiel et de la mésestime de soi, qui reste vraiment, et c'est un noyau dur, parce que pour l'attaquer, malheureusement, il ne suffit pas de réfléchir, hein, de dire quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, qu'est-ce qui vous prouve que... C'est vraiment l'action. Donc ces thérapies-là mélangent l'action et la une réflexion qui peut ressembler à une analyse, mais plutôt sur un versant le plus possible conscient, en fait. C'est ça, un peu,
oui,
la méthode. C'est qu'on conscientise des choses dont on sait très bien qu'il y a une partie qui sera peut-être inaccessible et qui vient de loin, encore plus loin, mais vraiment, l'expérience prouve que c'est pas grave, ça, de ne pas forcément aller au bout du bout dans ces sujets-là.
Alors Antoine Pellissolo, vous parlez à quelqu'un qui a passé 15 ans sur le divan. J'ai quand même l'impression que l'approche psychanalytique... concernant ce problème-là, elle peut quand même dénouer des choses et libérer enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, une forme de confiance. C'est-à-dire une confiance en la vie, une confiance en son chemin, une confiance en son histoire, et on sent que dans son histoire on a vécu des choses dures et qu'il y a eu du refoulement. Donc c'est un peu le point que vous avez tout à l'heure un peu évacué en disant on voudrait que ce soit conscient. Mais le fait de saisir son histoire peut quand même nous inviter à aller dans l'action, comme vous le disiez.
Sûrement. Alors vraiment, moi je dis, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais en tout cas, si on veut être libéré assez vite, c'est vrai que les TCC marchent un petit peu plus vite. Et puis, dans les TCC, ce que vous décrivez, on le vit aussi, hein, il y a des thérapies alors, un peu plus élaborées, la thérapie ACT, par exemple, qui va chercher un petit peu les valeurs sous-tendant toutes ces réflexes de peur, etc. Une fois qu'on a déconditionné les peurs, on peut s'attaquer à des choses peut-être plus profondes, si on a envie, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais bien sûr, le symbolique existe et l'inconscient existe.
Mais mon idée n'était en aucun cas d'opposer le TCC à la psychanalyse ou à la thérapie ACT que j'adore et que je trouve très bergsonienne. C'était plutôt de militer pour une approche intégrative. Et c'est d'ailleurs ce que je fais dans cette émission depuis 5 ans, puisque je reçois beaucoup de psychanalystes qui sont ouverts au TCC et beaucoup de comportementalistes ou de cognitivistes qui sont ouverts à la démarche analytique. Et je crois que c'est important pour les patients de militer pour cette intégration aussi.
Bien sûr, et je crois qu'on essaie de le faire avec, un certain pragmatisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on souhaite, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Parce que quand vous dites, les 15 ans, dit 15 ans. Bon, il y a sûrement plein d'autres bienfaits aussi. Et puis juste, je rajoute un point, parce que je suis médecin et que c'est un élément supplémentaire, on a aussi d'autres outils qui sont les médicaments, dans certains cas, pour les phobies sociales les plus sévères, hein, évidemment, c'est un certain degré supplémentaire. Quand ça vous gâche la vie au quotidien, quand vous n'êtes pas prêt à faire une thérapie, en tout cas à la faire facilement, parce que rien que le fait de rentrer dans le cabinet d'un médecin, d'un inconnu et encore plus d'un groupe vous terrifie, vous bloque réellement. Là, certains médicaments, donc c'est sous accompagnement médical avec des choses bien réglées, peuvent être assez pertinentes.
Vous avez dit tout à l'heure que le problème de l'anxiété sociale touchait à l'estime de soi, c'est-à-dire à une évaluation un peu abstraite de sa valeur, et justement l'invitation à l'action puisque vous proposez de l'exposition progressive, donc de retrouver de l'action, on pourrait presque dire que c'est plutôt la question de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est plutôt la capacité à poser des actions dans un univers incertain, justement, comme vous l'avez dit. Et donc, peut-être qu'on pourrait se dire aussi, au fond, réparer l'estime de soi, bah, ça va être trop long, et c'est peut-être pas le premier sujet. En revanche, on peut retravailler la confiance en soi, c'est-à-dire la capacité à y aller step by step et à accepter le risque, au fond.
Oui, alors on fait un peu les deux, en effet. Alors c'est plutôt ce qu'on appelle, par exemple, les compétences sociales. Ouais. Apprendre tout bêtement à prendre la parole en public, à discuter des choses un peu compliquées avec un rapport de force, par exemple. Donc, apprendre à dire non, ce qui est un point souvent central des anxieux qui acceptent tout et qui se trouvent avec énormément de travail et puis surtout des situations relationnelles complexes parce qu'ils n'ont jamais pu dire non à quelqu'un qui, alors qu'ils avaient très envie de dire non. Donc, c'est des choses, en effet, de compétences qui sont en effet liées à la confiance en soi. Il y a des choses encore plus rudimentaires. Par exemple, le noyau dur, souvent, qu'on attaque, c'est le regard. Et donc, les exercices de regard, c'est comme les battles, vous savez, on se regarde dans les yeux fixes et puis on dit rien. Alors, c'est très bizarre au début, mais c'est une façon de... On considère qu'on désensibilise, là, la peur, et ça autorise ensuite à passer à autre chose. Et le travail sur l'estime de soi, c'est vrai que souvent, il se fait de manière implicite, au final. Quand on a réussi à remplir ses objectifs, à trouver une vie affective et sociale agréable, bon, le reste est plus facile, effectivement, à travailler.
Ça fait un peu penser à cette phrase de la Bible, « Comporte-toi bien, sois plein d'amour, et le royaume de Dieu viendra par surcroît. » Là, c'est un peu pareil, « Retrouve de l'action, vas-y, et puis l'estime de toi viendra par surcroît. »
C'est aussi assez freudien, hein, enfin, la guérison...
Oui, bien sûr. Et ça me fait penser quand même à quelque chose qui est important, c'est que dans cette obsession du regard des autres, quand vous dites qu'on tient le regard, c'est comme si on désensibilisait le vieux réflexe qui est que celui qui regarde dans les yeux est un prédateur. Absolument. Et qu'on s'habituait à découvrir qu'en fait ce n'est plus le cas.
Absolument, c'est une habituation en fait qui est très particulière. Et on sait que ce réflexe, hein, je vous parlais de l'amygdale, mais l'amygdale est hyperactive quand on regarde quelqu'un dans les yeux. Et c'est ça qui est douloureux au départ. Donc il faut amoindrir petit à petit ce réflexe, et puis surtout toutes les pensées qui vont derrière, qui sont de dire ben là, quelqu'un me regarde, j'ai honte de ça, j'ai honte de moi, et petit à petit on met ça de côté. Dans Sartre, hein, je pense qu'il y a aussi cette question de la honte, il me semble que c'est...
Bien sûr.
C'est dans l'être et le néant, je pense,
où la honte...
on triangule avec quelqu'un qui vous voit, par exemple, faire une action dont vous vous sentez coupable, et c'est ça aussi qui se rajoute à toute notre imaginaire qui nourrit l'anxiété sociale.
Ouais, vous avez tout à fait raison, il y a cette scène que Sartre décrit, où quelqu'un est ridicule, il glisse dans la rue sur une peau de banane ou une déjection canine, et puis il n'a pas honte parce qu'il pense qu'il n'y a personne. Et puis quand il voit au bout de la rue que quelqu'un l'a vu, alors il a honte, mais il a honte sous les yeux des autres. Et après, l'étape d'après du raisonnement sartrien, c'est de dire qu'en fait, de toute façon, quand bien même il n'aurait pas vu une silhouette, il l'imagine, parce qu'être humain, c'est vivre sous les regards des autres.
Oui, c'est incorporer effectivement le regard de l'autre dans la construction de soi-même, ce qui a beaucoup de vertus, parce que c'est un des points de l'attachement là aussi, mais ça peut faire souffrir.
Donc c'est ce que chantait Marc Lavoine avec sa chanson « Les yeux revolvers ».
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil, hein, entre guillemets, là, c'est le cas de dire aussi, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde, ça, effectivement.
Vous avez été le directeur de thèse de Albert Moukébert, qui a justement fait sa thèse sur la phobie sociale, sur l'anxiété sociale. Et je crois que c'était votre idée d'appeler sa thèse « Les yeux revolvers ».
Oui, alors d'autant plus que, je ne vais pas vous raconter tout, mais a priori je connais la personne pour qui la chanson a été écrite. Donc c'était un petit...
Ça nous intéresse.
Un petit clin d'œil. Non, je ne vais pas lâcher les noms. Ce qui était intéressant dans sa thèse, dans son travail, donc, c'était de l'eye tracking, comme on dit, c'est-à-dire de surveiller, d'enregistrer la direction du regard face à des photos.
Ah,
donc,
oui.
Ce qui peut paraître étonnant, on peut avoir des réflexes de peur face à des photos quand on a une phobie sociale, quand on regarde un visage, en fonction de l'émotion qui est exprimée notamment. Et une des conclusions de ce travail qui m'a assez passionné, c'est que, comme dans toutes les peurs, on évite le regard. Donc, quand on a peur, on évite l'objet de la peur. Donc, des personnes qui ont une anxiété sociale ne regardent pas beaucoup les yeux de l'interlocuteur sur la photo, mais ils le surveillent quand même. Donc, c'est une surveillance de, peut-être, l'attitude de l'autre. C'est un mélange, en fait, de peur et d'anxiété. La peur, c'est vraiment la menace, et donc on a besoin de fuir. L'anxiété, c'est quand même une menace potentiel. Donc on surveille et on a du mal à se désengager. Donc les yeux des phobiques, c'est je regarde, je m'enfuis, je regarde, je m'enfuis. Et c'est des va-et-vient comme ça, vraiment permanent. Ce qui est différent d'une personne qui n'a pas d'anxiété sociale, qui va regarder le regard pour analyser l'émotion en général, ou l'intention. Ou alors à l'inverse aussi, il y a d'autres pathologies autour de l'autisme, par exemple, où il y a une forme d'incompréhension ou de désintérêt du regard de l'autre. Donc cet outil de tracking oculaire est assez pertinent pour explorer tout cela.
C'était Curtis Harding, The Power.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Quel est votre plus ancien souvenir ?
Je ne viens pas... Ici est allée mon intimité.
Pourquoi êtes-vous ici, alors ?
Pour mon foutu bégaiement !
De quand date votre déficience ?
J'ai toujours eu ce bégaiement.
J'en doute fort.
Je vous prie... Je vous en prie, c'est moi qui suis bègue.
C'est ma partie. Je vous assure que l'enfant qui découvre le langage parle tout à fait normalement. Chez vous, c'est venu quand ?
Vers 4-5 ans.
Et vous hésitez quand vous pensez ?
Ne soyez pas ridicule.
En parlant tout seul, est-ce que vous butez sur les mots ?
Non.
ça va de soi. Ce qui prouve que votre empêchement de langue, vous ne l'avez pas en vous. À votre avis, quelle en est la cause?
Je n'en sais rien. Cela même, égal. Je suis bègue, nul. Nul n'y peut rien.
Alors Antoine Pellissolo, c'était un extrait du discours d'un roi.
Oui, très fort, et notamment, à chaque fois, on sent bien la part d'identification, d'empathie qu'on peut avoir avec cette douleur, avec une personne qui bégaye ou qui a d'autres difficultés d'expression. Alors c'est un mélange, c'est évidemment la partie émotion qui joue un rôle très important, mais il y a aussi, chez certains bègues en tout cas, un dysfonctionnement qui est plus neurodéveloppemental pour certains. Mais ça, évidemment, ça aggravé notablement lorsqu'on a le regard de l'autre et donc la peur qui va avec.
Alors, il y a une scène magnifique dans ce film où le roi a réussi à s'en sortir et à faire un très beau discours. Ça nous amène à la question qu'on avait annoncée tout à l'heure de la prise de parole en public. J'ai vu une étude dingue où les Français racontent ce qui leur fait le plus peur. Et dans bien des cas, la prise de parole en public leur fait plus peur que leur propre mort.
Oula. Alors c'est en effet commun. Alors il n'y a pas qu'en France, mais je pense plus en France qu'ailleurs, en effet, par manque tout bêtement d'entraînement en général, parce que ça fait partie des compétences qu'on peut entraîner.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quand même un petit challenge à chaque fois. C'est la peur sociale multipliée en gros par le nombre de personnes présentes, enfin dans ce qu'on peut se représenter mentalement, avec surtout ce que je trouve difficile quand même dans cet exercice-là et que les personnes expliquent, c'est l'absence d'échange en réalité.
Ça, ouais.
Parce que d'habitude, dans un échange, il y a l'autre qui est là pour entretenir une forme de soit d'intérêt, soit en tout cas de présence. Un public, par définition, il regarde et puis il dit rien. Donc il ne va pas facilement vous encourager. Vous pouvez imaginer le pire. Et puis, encore une fois, c'est un exercice, c'est une forme de prestation auquel on n'est pas entraîné. Donc c'est souvent l'angoisse un peu du vide, de comment je vais me débrouiller et qu'est-ce que les autres vont penser. Et puis derrière, toute une cascade de scénarios qui vont jusqu'à la honte ou à la mort sociale, puisqu'il y aura encore plus de témoins de mon humiliation.
Alors Antoine Pellissolo, vous êtes médecin, psychiatre, directeur de la psychiatrie au CHU Henri Mondor de Créteil, et donc vous avez bien parlé d'une mise à mort symbolique, donc c'est pas si absurde quand les gens comparent ça à la mort.
Oui, parce que la peur de la mort, mais le symbole, c'est en effet de je ne peux pas survivre sans l'autre. Et puis la nourriture, on va dire affective, l'amour, c'est aussi un ingrédient de notre bien-être, notre bonheur, de notre identité aussi. Donc en effet, le fait de ne plus être reconnu. Donc ce qu'on appelle aussi l'image de soi, la réputation chez les jeunes, c'est un peu ça, la bonne ou mauvaise réputation, positive ou négative, c'est un élément essentiel de notre construction.
Alors j'ai une question un peu naïve, mais je pense que beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices la posent. Est-ce que ça peut nous aider de nous dire, au fond, je m'en fous? Je m'en fous de ce qu'ils pensent, et même je m'en fous d'y arriver ou pas. Est-ce que cette idée-là, elle peut être libératrice?
Ça serait la meilleure. Sauf qu'elle n'est pas très crédible pour la plupart d'entre nous, encore une fois, parce que la vie sociale et la vie, tout simplement, nous amène quand même à avoir besoin de nous appuyer un peu sur d'autres. Par contre, on s'en rapproche. La croyance la plus importante derrière l'anxiété sociale, c'est en effet le regard de l'autre et le jugement de l'autre est vital pour moi, est indispensable. Eh bien non. Effectivement, il y a toujours une part d'incertitude où ça peut mal se passer et le but, c'est de ne pas surévaluer cette part-là, de dire si quelqu'un se moque de moi, si même l'Assemblée se moque de moi, ma vie n'est pas terminée pour autant. Parce que vraiment, le problème, c'est les scénarios qui vont jusqu'à parce que j'ai dit une bêtise dans une réunion, je vais me faire licencier évidemment parce que mon poste est en jeu, et puis si je me fais licencier, ma femme va se barrer parce que j'aurai plus de travail, et je vais me retrouver à la rue. Enfin vraiment, vous voyez, en microseconde, parfois se déclenche ce scénario, et c'est là qu'il faut mettre un peu de rationnel. Parce que je ne dis pas que c'est complètement impossible que ça arrive, mais c'est quand même très peu probable. Donc il faut admettre que c'est un peu dans un coin de la tête, mais relativiser l'importance qu'a même le pire des scénarios. Et si ça arrive, et alors? Et alors, en général, derrière, on n'est pas mort, effectivement.
Ça, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, et c'est important de s'y arrêter. De se représenter la pire des options, ça peut quand même faire du bien.
Absolument, c'est dérouler jusqu'au bout le scénario, parce que très souvent, on n'ose pas. Ah non, je ne peux pas faire ça, mais pourquoi ? Ah ben, je ne sais pas, ça pourrait mal se passer à ce niveau-là. Oui, mais derrière, qu'est-ce que ça peut enclencher ? Parce que forcément, s'il y a notamment un évitement majeur, c'est qu'on redoute quelque chose d'horrible, et il faut dérouler pour à la fois se dire, est-ce que réellement ça peut arriver ? Alors des fois, c'est complètement fantasmatique, on dit non, ça n'arrivera pas, ça c'est sûr. Et même si telle chose est crédible, est-ce que ça doit me gâcher la vie au quotidien ? Donc c'est vraiment faire la part entre un risque qu'on prend sur une situation donnée qui est probablement très 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 surévalué et le prix à payer qui serait de se gâcher la vie au quotidien.
Antoine Pellissolo, vous êtes un homme engagé, vous défendez aussi beaucoup le service public, l'hôpital public, vous êtes responsable au PS de toutes les questions de la santé et de la santé mentale dedans, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'école française est un peu responsable aussi de ce problème, qu'elle n'apprend pas aux enfants à oser parler en public, qu'elle ne fait pas assez d'exposés, qu'elle ne les autorise pas assez à se planter, qu'elle inocule trop le poison du perfectionnisme dans nos jeunes enfants ?
Oui, oui, ça, je pense que maintenant, on commence un peu à s'en rendre compte, mais ça a été un des problèmes vraiment majeurs depuis toujours. En effet, il faut libérer, comme on dit, la parole, il faut laisser les enfants s'exprimer, même au prix de dire des bêtises, de se tromper, parfois d'être un peu moqué, mais la moquerie, malheureusement, des fois, quand on l'accompagne pas, ça va jusqu'au harcèlement, donc il faut à tout prix surveiller tout cela, mais vraiment donner la parole, je crois que c'est un peu ça le concept, et ne pas... ne pas noter derrière, par exemple, parce que le système français, c'est beaucoup des notations et avec une terreur de la contre-performance. Et ça, quand on est enfant, c'est pas comme ça qu'on s'épanouit, évidemment.
Quand on vous entend parler, quand on parle, on comprend cette apologie de l'incertitude, cette invitation à y aller, à l'exposition progressive. On comprend à quel point on entend parfois dans les familles ou même dans les écoles des phrases absolument horribles qui semblent pourtant des vérités, et je prends par exemple, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Oui, alors ça résonne forcément, on a été éduqué comme ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement sot, il y a des cas où effectivement on peut réfléchir un peu avant de parler.
Oui, un peu, mais il faut quand même y aller.
Mais ne pas être paralysé en effet par, oui, ce que vous décriviez, c'est le besoin de perfection en effet.
Le perfectionnisme.
Voilà, c'est le perfectionnisme qui est vraiment paralysant chez beaucoup.
D'ailleurs, je crois que dans le DSM, le perfectionnisme est maintenant répertorié comme symptôme de beaucoup de maladies, non ?
Oui, c'est présent notamment dans certains types de personnalités, notamment les personnalités obsessionnelles, hein, qui ont besoin d'avoir le contrôle sur tout et notamment sur elles-mêmes.
Ouais, je précise que le DSM, c'est l'annuaire des maladies psychiatriques, un annuaire que vous utilisez beaucoup si vous faites des TCC, par exemple, et qui est assez critiqué par les psychanalystes comme étant trop diagnostiquant, trop pseudo-scientifique, et que le perfectionnisme, bien sûr, je précise, c'est pas le désir de s'améliorer, ça c'est le noble perfectionnement, c'est le fait d'attendre d'être parfaitement prêt pour y aller. Or, tout ce qu'on comprend dans les thérapies que vous proposez, c'est que justement, il faut y aller quand on n'est pas prêt, et que c'est comme ça qu'on va se préparer.
Oui, oui, et qu'on apprend au fur et à mesure.
Merci beaucoup Antoine Pellissolo, c'était un plaisir de vous écouter. Je rappelle 3 de vos livres, La nouvelle peur des autres, Retrouver l'espoir et Ne plus rougir et accepter le regard des autres. Et pour vous remercier d'avoir pris du temps pour venir avec nous, je vais essayer de faire votre portrait, la philosophie de la vie qu'on a entendue. Eh bien, un homme engagé, un homme qui essaye d'aider les autres, les patients, à s'engager justement dans le monde, dans le réel, en acceptant l'incertitude, en ayant aussi le droit à l'erreur, en apprenant aussi, ça c'est très beau, à dire non. Je rappelle que vous êtes aussi premier adjoint à la mairie de Créteil, qu'au niveau du Parti Socialiste, vous êtes responsable de toutes les questions de santé, et que c'est aussi ça votre engagement. Et d'ailleurs, ce non que vous apprenez aux patients à dire, parce que souvent quand on a trop d'anxiété sociale, on ne sait pas dire non et on obéit à tout, eh bien on a entendu, et c'était très touchant, que c'était aussi dans votre bouche un grand oui à la vie. Merci beaucoup Antoine Pellissolo. Cette émission a été préparée très bien, merci beaucoup, par Estelle Gaffe et Louise Tempero, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Thomas Allard. À demain.